Mémo audio, une mémoire sonore.
On va essayer de prendre 3-4 questions. Pour ceux qui veulent intervenir, vous levez la main assez vite, que l'on puisse voir. Alors, il y en a une ici.
Oui, donc moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à la fin concernant l'opinion publique américaine. Donc, vous avez mentionné les personnes juives américaines. Mais voilà, est-ce qu'on note une amélioration dans une démographie qui est bien plus importante, numériquement, celle des chrétiens évangélistes, parce que il me semble que maintenant, c'est surtout les chrétiens évangélistes qui sont les plus fervents sionistes américains, et notamment, je pense au lobby, groupe lobbyiste QFI, qui est bien plus grand que AIPAC laïque, qui pourtant, je trouve, est beaucoup moins souvent cité.
Quand on était fait par les responsables israéliens après le 7 octobre, et que leur discours, il était génocidaire, c'est ce que j'ai entendu quand j'ai entendu ces tout premiers discours, et les animaux humains. Comment se fait-il que chaque pays d'Europe a des diplomates et que la réponse à ce discours a été absolument inaudible ou nulle?
Oui, une question très ponctuelle. Vous avez mentionné un article qui remonte à octobre 2023 d'un Israélien qui vit aux États-Unis. Sans mentionner son nom, si vous pouviez nous dire de qui il s'agit. Au tout début, vous avez mentionné un article d'un Israélien. Hein ? Oui, vous avez dit le 13 octobre 23, mais vous n'avez pas donné son nom. J'ai une remarque en ce qui concerne le sionisme, qui n'est pas comme tout colonialisme. Hein. Le sionisme s'accompagne d'une épuration ethnique depuis ses débuts, depuis son projet initial. Les autres colonialismes n'ont pas donné lieu à une épuration ethnique parce qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre. C'est le cas de la colonisation en Afrique, mais même des colonies de peuplement comme en Australie ou en Amérique n'ont pas donné lieu à une épuration ethnique, comme on l'a vu en Palestine, avec ce degré. Bien sûr, on a parqué les indigènes, mais on ne les a pas chassés de façon aussi violente que la colonisation abjecte du sionisme. C'est mon point de vue.
Alors, moi, la question que je me pose quand même, c'est, et que tu n'as pas évoqué alors que tu l'évoques assez longuement dans ton livre, c'est aujourd'hui la crise de la direction palestinienne, parce que je crois qu'un des gros problèmes quand même auxquels on a affaire aujourd'hui dans la situation, c'est qu'il n'y a pas de perspective politique fournie par une direction palestinienne telle qu'elle a pu exister à d'autres temps, même si on peut la critiquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la question des sanctions. Alors, bon, moi, je fais partie du mouvement BDS, boycott des investissements en sanctions. Je crois qu'aujourd'hui, la question des sanctions, elle est essentielle. Parce que si on n'arrive pas, aujourd'hui, à combiner l'arrêt, il n'y a qu'une façon, à mon avis, d'arrêter le génocide et d'arrêter Israël aujourd'hui, c'est de faire que le coût politique pour Israël de l'occupation et du génocide soit plus important qu'il ne l'est actuellement. Et ça, c'est des sanctions tout azimut. Il n'y a pas que les sanctions. Il y a les sanctions économiques, mais il y a le boycott universitaire, il y a le boycott culturel. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a le rappel des ambassadeurs, il y a une série de sanctions qui peuvent être prises sans même attendre, y compris les sanctions économiques, sans même attendre d'avoir l'unanimité de l'Union européenne, ce qui freine considérablement un certain nombre d'États, et la France peut le faire, peut prendre des décisions unilatérales de sanctions. Le dernier point, je crois on l'évoquera peut-être après, c'est que quand même l'histoire de la flottille me paraît, moi, quand même importante, parce qu'il y avait très longtemps, et je crois que ça c'est l'évolution des opinions publiques, il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu affaire à un internationalisme en acte, et je crois que de ce point de vue-là, c'est un gros progrès dans le mouvement de solidarité.
Eh bien, merci pour ces remarques et questions. D'abord, je réponds à la question factuelle. L'auteur, c'est Raz Segal, S-E-G-A-L. Si vous cherchez sur l'Internet un cas d'école de génocide, vous trouverez Donc cet article daté du 13 octobre 2023 par un spécialiste de la question et qui est israélien lui-même. J'ai moi-même écrit en arabe et en français enfin, des textes immédiatement dans l'après 7 octobre qui indique cette dynamique et j'ai utilisé en arabe le terme de guerre génocidaire pour bien décrire ce qui se préparait parce que je rappelle que l'invasion terrestre n'a commencé que 3 semaines après hein, c'est-à-dire qu'ils ont massivement bombardé avant pour la raison que je vous ai également que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire l'armée israélienne ne prend pas de risque, elle aplatit complètement les zones urbaines et puis elle les prend d'assaut. Alors là, bon, il n'y a plus de tireurs cachés derrière les coins des immeubles ou sur leurs toits. Bien, donc voilà. Alors après le sionisme, bon, le sionisme, je l'ai dit, est un projet qui comporte ouvertement et d'emblée l'épuration ethnique, parce qu'il s'agit du projet de créer un État des Juifs en transportant les Juifs. Donc c'est pas, ça aurait été le projet de créer un État des Juifs dans l'Empire russe, enfin une partie de l'Empire russe, dans les zones de concentration de la population yiddish, d'ailleurs, qui était une des grandes populations européennes. On l'oublie souvent, la culture yiddish qu'Israël a effacée, hein, soit dit en passant, mais ça représentait 15 millions de personnes. Eh bien, ça aurait peut-être été complètement différent. Mais là, on a donc un projet qui s'inscrit dans l'entreprise coloniale et qui a pour particularité le fait de ne pas disposer d'une métropole, qui n'est pas l'extension d'une métropole, comme par exemple le colonialisme de peuplement qui s'adosse à la France comme métropole. Eh bien, les dirigeants de mouvements sionistes vont chercher une métropole. Hein, ils vont frapper à plusieurs portes, dont celle de l'Empire allemand de leur époque, fin du XIXe siècle, jusqu'à obtenir le feu vert de l'Empire britannique, du principal empire colonial du monde. Et vous savez très bien que, donc, à l'origine de ce qui va aboutir à l'État d'Israël, il y a la déclaration Balfour, en 1917, du gouvernement britannique, qui, soit dit en passant également, c'est pas assez dit, c'est pas assez connu, mais qui est rejeté par un seul ministre du cabinet britannique de l'époque, et qui se trouve être le seul ministre juif, et qui non seulement rejette cette déclaration, mais la déclare, la caractérise par écrit, d'antisémite. Pourquoi antisémite ? Parce que vous partez de l'idée que les Juifs, leur foyer national, ça doit être en Palestine et pas en Grande-Bretagne ou en France ou ailleurs, comme s'ils n'étaient pas citoyens et citoyennes des pays où ils habitent. Donc, la Grande-Bretagne est, sur un territoire dont, évidemment, ils savent très bien qu'il est peuplé par d'autres. Hein, c'est autre chose en dehors des mythes qui ont pu circuler là-dessus. Et donc, ça suppose un projet d'épuration ethnique, c'est-à-dire de déplacement, de déracinement de la population. Bon, maintenant, ça s'est fait. Bon, faut pas non plus, forcer ou trop remplir la barque. Enfin, il y a eu, dans l'histoire coloniale, bien pire, moi, je l'ai écrit dans mon livre Les Arabes et la Shoah, je ne pourrais pas l'écrire aujourd'hui, mais j'avais dit à l'époque que ce n'est pas l'horreur ou la violence qui caractérise ce qui s'est passé en Palestine, parce que comparé à ce qu'a fait la France en Algérie, c'est pas grand chose, entre guillemets. J'avais expliqué quelles étaient les raisons qui faisaient de cette histoire une histoire si importante. Donc, entre autres, l'anachronisme de ce projet colonial qui se réalise au moment où décolle la décolonisation. En 1947, vous avez une ONU qui prône la décolonisation et qui vote pour la réalisation d'un projet colonial. Vous êtes en pleine contradiction, et ce colonialisme attardé, anachronique de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, bon, c'est la caractéristique. Bon, j'ai dit que je ne pourrais pas écrire ce que j'avais écrit il y a 15 ans, après le génocide qui est aujourd'hui en cours. Alors là, la brutalité, elle est absolument inouïe. C'est le premier génocide perpétré par un État technologiquement avancé. On ne parle pas du Rwanda ou d'autres parties. On parle d'un État technologiquement avancé qui appartient, sur le plan géopolitique, à l'Occident et qui commet un génocide avec le soutien des gouvernements occidentaux. C'est le premier depuis 1945. Et quand je dis 1945, je me réfère pas seulement au génocide perpétré par les nazis, mais je me réfère aussi à Hiroshima, Nagasaki, qui sont des actes génocidaires. Hein. Bon, il faut aussi tenir compte de cela. Et d'ailleurs, Netanyahou ne s'est pas empêché de rappeler les gouvernements occidentaux leur propre histoire afin de justifier ce qu'il faisait lui-même. Bien, sur... Le pourquoi de l'absence de réaction, voire même du consentement ou du soutien apporté, je dirais par exemple Keir Starmer, le Premier ministre britannique, quand il a été interrogé en octobre 2023 sur les propos du ministre israélien de la Défense qui ont été évoqués, sur le fait qu'il coupait... les vivres, l'eau, etc., à une population civile, etc. Il a défendu. Donc, c'est dire. Alors, pourquoi ? Pourquoi je dirais que... Bon, d'abord, il n'y a qu'à imaginer un seul instant ce qui aurait été la réaction si c'était la Russie qui avait fait ça n'importe où ailleurs. Bon. Donc, c'est clair qu'on est dans le deux poids, deux mesures. Et là, il y a, vis-à-vis d'Israël, il y a l'identification avec Israël comme projection occidentale, comme l'avait dit Herzl, avant-poste de la civilisation, entre guillemets, occidentale, au sein du Moyen-Orient. Il y a aussi la projection sur Israël de la Shoah, du génocide, ce qui fait l'attitude en particulier de l'Allemagne, de pays comme l'Allemagne et l'Autriche en particulier, mais la France aussi, et qui est la façon la plus mauvaise de tirer les leçons de la Shoah. Parce que la seule façon de tirer des leçons de la Shoah qui respectent les victimes de la Shoah et les autres victimes des nazis, hein, les Roms, etc., eh bien, c'est d'en tirer une leçon universelle. Il consiste à un plus jamais ça qui s'applique à l'acte même de génocide, à l'acte même de discrimination raciale, à l'acte même de politique de force et d'occupation, etc. Or, au lieu de cela, la leçon qui est tirée est une leçon étroitement ethnocentrée et qui consiste à se dire plus jamais cela aux Juifs. Et donc, inversement, le fait de s'interdire de critiquer un État parce qu'il prétend représenter l'héritage de la tragédie des Juifs d'Europe. Bon, eh bien, je n'ai pas besoin, je crois, d'expliquer en quoi cette logique est funeste et en quoi le fait d'être descendant et descendante de victimes ne signifie nullement qu'on ne peut pas être à son tour oppresseur et même génocidaire, comme on le voit très tristement. Autre chose, c'est bon, en ce qui concerne les États-Unis, le courant sioniste chrétien, c'était auparavant un courant qui existait aussi également en Grande-Bretagne et qui est en partie à l'origine de la déclaration Balfour. Mais aux États-Unis, c'est une partie importante de la base électorale de Trump, en particulier. Donc ça n'explique pas le soutien de Biden, qui est un soutien idéologique qui est en rapport avec son son soutien déclaré au sionisme. Non seulement un soutien déclaré, c'est quelqu'un qui a plusieurs fois, du temps de sa présidence, déclaré être lui-même sioniste, s'est présenté comme sioniste. Bon, eh bien, ça s'est fait en combinaison avec les intérêts stratégiques des États-Unis qui considèrent l'État d'Israël comme une pointe avancée de leur dispositif militaire régional, capable de réagir beaucoup plus rapidement que ne le sont les États-Unis eux-mêmes, où il faut parfois passer par le Congrès et tout cela. L'intérêt de cet État, c'est manifesté de manière très claire de nouveau. Il s'est illustré depuis 1967 à plusieurs reprises, mais de nouveau par à l'occasion de ce qu'a enclenché le 7 octobre, vous avez eu la destruction du Hezbollah au Liban, vous avez eu les coups répétés portés à l'Iran, dont le dernier avec participation directe des États-Unis. Vous avez eu entre les deux l'écroulement du régime syrien, et donc un État d'Israël qui se retrouve dans une position de force et de domination d'hégémonie militaire à l'échelle régionale inégalée jusqu'ici. Cette capacité donc de projection très loin, c'est pas le pourtour immédiat, c'est bien plus loin. Et l'intérêt là, c'est la protection qu'apporte Israël comme partie du dispositif américain aux monarchies pétrolières arabes les plus liées aux États-Unis, donc notamment les Émirats arabes unis et le Royaume saoudien, et l'ennemi principal n'est pas Israël, mais l'Iran. Bon, voilà. Donc, sur les sanctions, etc., je l'ai dit, je crois d'accord là-dessus. Et les flottis, c'est pas nouveau. Il y a eu des flottis avant le 7 octobre. Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. J'ai pas dit camp d'extermination, c'est en train de le devenir, c'est autre chose, mais c'est un camp de concentration à ciel ouvert depuis 2006-2007. C'est un territoire sous occupation selon le droit international. Le droit international a qualifié Gaza de territoire sous occupation parce que le territoire est entièrement sous contrôle d'Israël, qui en contrôle toutes les issues. Bon. Alors, la solidarité avec la population palestinienne, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, il ne faut pas oublier la Cisjordanie où ce qui se passe est absolument dramatique actuellement. Et vous avez entendu comme moi les pressions de l'extrême droite pour l'annexion pure et simple d'une grande partie, 82% dit Smotrich, le ministre israélien, qui appelle à annexer 82% de la Cisjordanie. On est dans une situation d'urgence extrême et la première chose qui se présente, au moins pour le mouvement de solidarité, c'est BDS, c'est boycott, désinvestissement et sanctions et rupture donc des rapports commerciaux et militaires. N'oublions pas que l'Union européenne a un rapport privilégié avec l'État d'Israël et qu'elle n'a toujours pas interrompu en dépit de la guerre génocidaire. Et donc ça, c'est à cela qu'il faut réagir. Enfin, la crise de direction palestinienne, oui, malheureusement, ça ne se limite pas à la direction palestinienne. Je dirais qu'il y a une crise de la gauche à l'échelle mondiale. Et dans le monde arabe, il y a une crise qui est manifeste par la défaite des deux vagues successives de soulèvements. C'est la région du monde qui a connu les plus grands soulèvements, puisque de 2011 à aujourd'hui, vous avez eu 10 pays, donc la moitié des pays de la région et plus de la moitié des populations, qui ont connu des soulèvements majeurs. Aucune autre région du monde d'aujourd'hui n'a connu cela. Et malheureusement, tout ça s'est soldé par des défaites. Ça ne veut pas dire qu'elles ont réglé le problème. La crise est toujours là et ça rebondira, mais ça a un effet démoralisateur. Et je veux dire, la crise de la direction chez les Palestiniens, elle est partie prenante de cela. Ils sont retrouvés pris entre deux directions, dont l'une est à la solde de l'occupation, de fait, hein, qui est, quels que soient les... Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est que pour Netanyahou, même Mahmoud Abbas est inacceptable. Mahmoud Abbas, devant lequel je pèse mes mots, hein, Pétain, c'est la souveraineté nationale. Je veux dire, Pétain avait plus de souveraineté que l'autorité palestinienne en a, celle de Ramallah, très objectivement parlant. Donc, entre celle-là, et c'est cette autorité que Emmanuel Macron et compagnie considère comme l'État de Palestine. Donc c'est un État de Palestine qui n'est pas seulement un mini-État ou un État croupion, tout ce que vous voulez, mais dont le modèle est un type d'autorité qui est en deçà de ce qu'était Vichy, hein, par rapport à l'occupation allemande. Bien, entre ça et une organisation intégriste, donc, dont le programme social, culturel, politique est de nature réactionnaire, comme tout intégrisme, qu'il soit musulman, chrétien, catholique, protestant, juif, hindou ou autre, il n'y a pas de mystère à ce niveau-là, et qui a une conception stratégique de la lutte qui est fondamentalement erronée. Ça va des attentats suicides d'avant 2006, des années 90, jusqu'à ce 7 octobre qui est eh bien, qui a été saisi comme occasion. Hein. C'est pas, comme l'avait dit l'autre, il n'y a pas une... Enfin, je crois qu'il serait faux de parler en termes de responsabilité écrasante ou quoi que ce soit, qui donnerait l'impression que la cause de ce qui se passe, c'est le 7 octobre. C'est pas vrai. Le 7 octobre est saisi comme un prétexte, une occasion par l'extrême droite israélienne pour faire quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'est le 7 octobre. D'ailleurs, je dirais en passant, c'est très peu dit. On parle beaucoup des 1200 morts du côté israélien le 7 octobre. On ne dit pas que, selon les chiffres israéliens, 1600 Palestiniens y ont laissé leur vie. 1600 des assaillants palestiniens du 7 octobre sont morts sur place. C'est les chiffres israéliens. Mais vous n'en entendrez pas parler parce que ça donne une idée à ce moment-là de, eh bien, il y a eu 1200 morts d'un côté, il y en a eu plus déjà de l'autre, avant que le bombardement commence. Donc c'est vous dire tout cela. Et bon, voilà, donc il y a eu des tentatives au niveau de la jeunesse, il y a eu des tentatives de reprendre un mouvement de masse non violent. Il y a eu à Gaza, en 2018, les marches du retour qui sont enclenchées et qui prennent une dynamique positive jusqu'au moment où le Hamas et les autres organisations décident d'essayer de les récupérer et qui vont s'enliser et puis face auxquelles la répression israélienne est très violente. Et puis il y a en 2021 un début d'intifada, toute la presse soulignait le début d'intifada autour de la question de Sheikh Jarrah à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce début d'intifada en mai 2021, qui s'étend même aux Arabes, aux Palestiniens détenteurs de la citoyenneté israélienne. Et le Hamas entre en jeu, donne un ultimatum jusqu'à 18h du même jour au gouvernement israélien. Et l'ultimatum passé lance des roquettes et ça se transforme, encore une fois, en bombardement, en guerre. Et cette intifada qui avait commencé s'arrête net. Voilà. Donc, oui, grave crise de direction qui fait partie de cette crise, du mouvement progressiste à l'échelle mondiale.
On va prendre notre question. Je donnerai quand même deux ou trois informations. La première, c'est que vous avez une table BDS en haut de l'escalier ici, que vous avez quand même plusieurs actions, dont BDS, qui fait partie des actions qu'a cité Gilbert. Il y a une demande de rupture auprès de la mairie de Toulouse, auprès de M. Moudin, du partenariat Toulouse-Tel Aviv. Et puis, je vous recommande, si vous avez le temps, vous pouvez trouver sur le site du Monde Diplomatique l'éditorial de Akram Belkaïd qui s'intitule complicité arabe et qui illustre parfaitement ce qui vient d'être dit. Alors, on reprend un train de questions avant que tout le monde ne parte.
Oui. Monsieur Achkar, je voudrais commencer par un petit point qui est, sinon de contester, du moins de réécrire légèrement différemment un épisode dont vous avez parlé. Vous avez dit que la direction palestinienne d'Arafat avait commis l'erreur de commettre une intifada armée. Je pense que quand on regarde les événements de plus près, ça demande quand même un peu de réflexion, ou peut-être une autre réflexion. Ce qui s'est passé après la provocation de Sharon sur l'esplanade des mosquées, vous en souvenez sans doute, ça a été des manifestations massives des Palestiniens. Et pendant toute une durée, alors je ne saurais pas dire exactement combien de semaines, mais au moins 15 jours, il y a eu plus d'un million de balles qui ont été tirées par l'armée israélienne. Et les dénombrements, c'est 141 Palestiniens tués, 5900 blessés, avant même qu'il n'y ait un seul soldat israélien tué par les factions armées. Alors, moi, je me pose la question, après donc, cette période qui était vraiment un début de massacre, donc on n'était pas en train de partir sur une première intifada, mais qu'est-ce qu'aurait été la deuxième intifada ? Est-ce que la direction palestinienne aurait dû, au bout de ces semaines-là, dire « Bon, écoutez, rentrez chez vous, enfermez-vous, comme ça, vous ne pourrez pas tirer dessus ?» Ou est-ce qu'il fallait effectivement, dans ces cas-là, commencer à répondre à la demande populaire, qui était certainement à ce moment-là de ne pas se laisser faire et de répondre. Donc, ça m'interroge. Alors, ça va venir, je vais venir avec ça à ma question. Vous avez donné une interview que Pierre m'a transmise, qui a été publiée par Entre les lignes, peut-être par d'autres vecteurs. Et l'intervieweur vous cite en disant. Alors vous, c'est-à-dire vous-même, vous écrivez que compte tenu de la supériorité militaire écrasante d'Israël, la seule stratégie rationnelle pour les Palestiniens est la lutte de masse non violente, comme l'a illustré la première intifada. Je pense que vous ne contesterez pas. Bon, moi je me pose quand même la question, parce que prenez l'exemple de Gaza, vous avez dit enfermé depuis 2007, il y a eu application de stratégie rationnelle de lutte de masse non violente, ça a été utilisé en 2000. 18, avec les marches du retour, qui étaient effectivement des actions, on peut dire, massives et non violentes. Le résultat des courses, 279 morts, 29 000 blessés, dont beaucoup mutilés volontairement. Donc ça, autrement dit, je viens un petit peu à ma question, qu'est-ce que ça peut signifier ? Je ne parle pas de Gaza, bon, parce que Gaza, on sait ce que c'est aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui pour les Palestiniens ? Prenez le cas de la Cisjordanie. Pour eux, par quoi ça peut se traduire concrètement d'avoir une stratégie de lutte de masse non violente ? Maintenant.
J'ai donc deux questions. L'une concerne les objectifs d'Israël, parce qu'évidemment, il y a une intention génocidaire à Gaza. Mais en même temps, en plus, vous êtes Libanais. Moi, je reçois la lettre hebdo du Centre libanais des droits humains. Je lis dans L'Orient le jour. Il y a tous les jours des tirs israéliens et des bombardements israéliens au Liban. Donc au-delà de bon, en Syrie, ça peut peut-être expliquer pour d'autres raisons, mais je dirais au Liban où le Hezbollah est plus ou moins éradiqué. Quelle est l'intention d'Israël au-delà de Gaza ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, dans ce gouvernement qui est quand même suprémaciste, religieux et tout ce que ça a de dangereux. Qu'en est-il de la sécurité des personnes qui sont, comme les gens qui écrivent dans Haaretz et tous ces gens qu'on entend ponctuellement, qui sont pour la liberté, pour une position plus humaniste ? Est-ce qu'ils sont en danger actuellement en Israël, les voix dissidentes ? Et s'ils ne le sont pas, jusqu'à quand ne le seront-ils pas, selon vous ?
Oui, moi, c'est très court. Vous avez terminé votre intervention avec une note d'espoir. Je pensais que vous alliez évoquer les pays arabes. On n'a pas. Est-ce que éventuellement leur comportement, leurs attitudes, leurs réactions pourraient maintenant changer de façon déterminante ?
Vous avez parlé du blocus en 2007 concernant que l'armée israélienne bloque le... Mais il y a aussi le gouvernement égyptien qui bloque du côté aussi. Et les gouvernements arabes, les Palestiniens n'attendent rien des gouvernements arabes. Ce sont des traites. Depuis le début jusqu'à maintenant, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant l'autorité palestinienne, elle collabore. Elle participe contre les résistants palestiniens. Donc, il y a un seul qui pourrait faire l'unité. Il est en prison, malheureusement, Marwan Barghouti, qui, lui, pourrait faire l'unité. Le troisième point, je voulais savoir, concernant le drapeau palestinien. La France a reconnu l'État de Palestine et je voudrais savoir quelles sont les conséquences, parce que moi, chez moi, dans mon balcon, j'ai mis le drapeau palestinien. Je ne suis pas palestinien, mais de cœur, je le suis. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce que je peux risquer? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer concernant quels sont les droits qu'on a le droit? Parce que je vois tout à l'heure, il y a le drapeau ukrainien. Je n'ai rien contre le drapeau ukrainien, mais est-ce qu'un jour, il y aura le drapeau palestinien à la mairie? Non, je n'ai pas précisé laquelle. Je veux dire par là... Oui, excusez-moi. Je voudrais savoir parce que c'est... Voilà. Merci.
Je vous conseille à nouveau de lire sur le site du Monde diplomatique l'éditorial d'Akram Belkaïd qui s'appelle « Complicité arabe ». Il explique tous les pays arabes, pourquoi ils ont cette complicité, dans quelle situation ils sont. Voilà. Il est gratuitement en ligne.
Moi, je voudrais qu'on réfléchisse à la légitimité invoquée par Israël du droit à se défendre quand on parle d'un pays colonisateur et qu'on peut légitimement reconnaître que ceux qui avaient le droit de réagir et le droit de se défendre, c'était les colonisés. Les colonisés, donc les Palestiniens. Et de la même manière... la manière dont tous les gouvernants ont repris en cœur le droit à se défendre de Israël, qui n'en avait absolument pas le droit. Enfin.
On arrête là, Gilbert. Oui.
Bien, merci également. Alors là, bon, c'est un peu dommage que ça vienne jusqu'au bout, ce que vous disiez, mais je vais essayer de répondre dans le laps de temps qui reste. Ce que vous avez dit juste sur le fait que ça n'a pas démarré tout de suite en 2000 en utilisant les armes, que ça a pris un certain temps et qu'il y a eu une réaction violente d'Israël. Mais posez-vous la question, pourquoi cette réaction violente d'Israël? Pourquoi la violence de la répression israélienne? Eh bien, je vais vous répondre comme répond l'organisateur des marches du retour que vous avez cité. Il a un article, je peux vous donner la référence, où il explique, où il tire les leçons. Et il dit, la violence israélienne avait pour but d'empêcher notre mouvement de continuer comme mouvement non violent. Et c'est ça, c'est là le rôle d'une direction, c'est d'empêcher que ce que l'ennemi essaye de provoquer se fasse. C'est toute la chose. Alors, vous me dites qu'il y a eu, prenez les marches du retour, qui ont duré des mois. Selon les chiffres officiels, 222 morts. Mais prenons votre chiffre qui en ajoute 50. D'accord? Vous en avez 1000 fois plus maintenant à Gaza. Hein. Donc, dans tous les cas de figure, c'est lutte non violente ou lutte armée. Alors, si vous expliquez que la lutte non violente a un coût humain, il faudrait montrer que la lutte armée en a moins. Or, évidemment que c'est pas le cas. Ça coûte beaucoup plus. Donc, on est même dans cette comptabilité-là. On est dans une situation qui fait que tout cela est une mauvaise stratégie. La stratégie de lutte armée et de l'idée qu'on va libérer la Palestine par les armes, alors que c'est un colonialisme de peuplement, et qui n'a pas de métropole, et qui donc s'accroche à sa terre, et d'une supériorité militaire absolument incommensurable, eh bien, c'est une stratégie qui va dans le mur. Parce que dans un cas comme ça, ce qu'il vous faut, c'est scinder la, la société coloniale. Scinder la société, et bon, j'ai donné un exemple dans un autre entretien, mais autant la lutte armée fait un sens au Liban contre l'occupation israélienne entre 1982 et 2000, vu les conditions du terrain, etc., les rapports de force, autant ça a un sens peut-être pour les Algériens contre le colonialisme français, autant que ça a un sens pour les Sud-Africains contre l'apartheid, vu les rapports de force. Autant pour les Noirs américains, ça mène dans le mur. Hein. Les Panthères noirs, ça n'a rien donné. C'est le mouvement des droits civiques, un mouvement de masse non violent qui arrive à scinder, donc à gagner de son côté une très grande partie des Blancs américains, et qui va donc renverser tout cela. Donc voilà, il y a c'est sur la base de ces données-là qu'il faut discuter de la stratégie. Je dis cela comme non pas comme observateur d'extérieur, mais comme personne qui a suivi ce combat palestinien, qui était dans mon pays, au Liban. Moi, j'ai quitté en 83, donc après le départ de Beyrouth des Palestiniens, et j'ai été partie prenante de leur combat pendant tout ce temps-là. Et je dois dire que ce que je dis sur l'intifada, sur l'erreur de la deuxième intifada, c'est pas moi qui le dis seulement, il y a plein de gens, il y a 50 des intellectuels les plus éminents de Cisjordanie, en 2001, ont fait une déclaration commune critiquant le recours aux armes, disant que vous êtes en train de tomber dans le panneau. C'est faux, c'est pas la bonne chose à faire. Bon, la direction Arafat n'en était pas à sa première erreur majeure. Bon, j'ai cité Oslo et tout le reste. Bon. Bien, Israël, au-delà de Gaza, bon, c'est Israël considère l'Iran comme un danger existentiel et ne tolère pas l'idée que quelqu'un lui ôte le monopole de l'arme nucléaire dans la région, puisque tout le monde sait qu'Israël est une puissance nucléaire, et donc a ses raisons propres d'attaquer l'Iran, mais qui convergent avec les idées avec les intérêts des États-Unis, pour lesquels les monarchies pétrolières du Golfe sont un enjeu majeur. Les deux fois que Trump a été élu président, sa première visite à l'étranger en tant que président officiel, c'est au royaume saoudien et aux monarchies pétrolières. Et alors la dernière, c'était dans l'indécence et le grotesque, hein, les promesses de milliards de dollars, les cadeaux, y compris le Boeing offert par les Qataris, qui leur a pas apporté la protection qu'ils pensaient. Bon, eh bien, Israël, donc, manifeste ce rôle à l'échelle régionale, en plus de son propre, de ce qui est quand même propre là à un vieux projet sioniste bien documenté, y compris les mémoires de Moshe Charet, qui était un des parmi les fondateurs de l'État d'Israël, un des premiers hommes politiques de premier plan en Israël, premier ministre et autres, et qui parle de ce plan qui existe, d'une fragmentation de la région sur une base ethnico-religieuse, selon les cas, qui est dans l'intérêt de la vision sioniste, parce que ça, d'une part, ça, je veux dire, ça met l'État juif, entre guillemets, dans un contexte d'État druze, maronite, alaouite, etc. Et deuxièmement, cette fragmentation crée une dépendance, c'est le divisé pour régner classique, de ces États vis-à-vis de l'État d'Israël. Bien, alors, les pays arabes sont complices de cette guerre génocidaire. Pourquoi complices ? Eh bien, tout simplement, ils sont, si vous voulez, ils sont coupables de non-assistance à peuple en danger. Et la non-assistance à peuple en danger relève de la complicité. Et en l'occurrence, ces États avaient le moyen de bloquer cette machine de guerre. Ils avaient le moyen, par leur poids économique, et je parle ici des monarchies pétrolières, de ces monarchies qui sont tellement chères à Donald Trump, eh bien, elles auraient pu faire une véritable pression avec des véritables menaces économiques. En 1973, c'est même les États arabes exportateurs de pétrole ont décrété un boycott de tous les États soutenant Israël dans la guerre d'octobre 1973 en solidarité avec les États arabes. Cette fois-ci, il n'en a même pas été question. Quand une fois ça a été posé, la question a été posée à un ministre saoudien, il a dit que cela n'est pas à l'ordre du jour. C'est hors. Donc, ils sont pleinement responsables. Je voudrais seulement préciser une chose sur l'Égypte, ça a été cité. L'Égypte a bloqué, a participé en un sens au blocus de Gaza pendant longtemps. Mais là, depuis le 7 octobre, c'est pas logique. C'est pas l'Égypte qui bloque l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, elle est du côté égyptien des files de camions. C'est Israël qui ne laisse pas entrer. Ce que bloque l'Égypte, mais là-dessus, personne ne lui reproche là, ça, là, c'est empêcher l'expulsion des Gazaouis sur le territoire égyptien. Et là-dessus, bon, c'est une position que les Palestiniens ne contestent pas, parce qu'ils ne sont pas pour l'épuration ethnique, pour faciliter l'épuration ethnique de leur propre population. Alors pour le reste, je crois que, vu que le temps est passé, je dirais simplement que Marwan Barghouti, bon, c'est un élément parmi d'autres. Tout ce qui peut renforcer une dynamique qui rendrait possiblement crédible un État palestinien est quelque chose qu'Israël ne laissera pas faire. Le jour où le gouvernement israélien libérera, si ça arrive, un Marwan Barghouti, c'est à ce moment-là, parce qu'ils y trouveront leur intérêt. À ce moment-là, il faudra voir pourquoi, à ce moment-là, dans quel but et dans quel intérêt. Mais sinon, on a vu, donc de manière très claire, Netanyahou s'est ouvertement vanté d'avoir bloqué l'idée même d'un État palestinien. C'est pour ça, ça a été très documenté du côté israélien, qu'il a favorisé la consolidation du pouvoir du Hamas à Gaza, y compris à un accord qui, selon un dirigeant du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est assassiné récemment par les Israéliens, dans un entretien récent que j'ai vu récemment à la télévision britannique, qui explique qu'ils ont arrêté les marches du retour, après les avoir récupérées, en échange de l'autorisation du transfert d'argent liquide de Qatar à Gaza. Pourquoi Netanyahou l'a fait, comme beaucoup de commentateurs israéliens l'ont souligné, en lui reprochant tout cela, c'est du machiavélisme primaire, si vous voulez. C'est de dire, j'entretiens cette division, je ne voudrais pas que les Gazaouis se sentent sous pression économique pour se réconcilier et se raccrocher à la Cisjordanie. Je préfère consolider la division entre ces deux territoires afin que les Occidentaux, les Européens ne m'embêtent pas, ou les démocrates américains ou autres ne m'embêtent pas avec l'État palestinien. Voilà. Et c'est là-dedans. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État de Palestine est la réponse à la question ? J'ai dit ce que j'en pensais. Je crois que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très en deçà du minimum qu'il faut, qui est d'abord arrêter le génocide. Et c'est pas par des proclamations symboliques que ça se fait, c'est par des moyens dont l'Europe dispose également. Et cette Europe pourrait elle-même, d'ailleurs, mettre les monarchies pétrolières arabes dans l'embarras, de la même façon que Macron a poussé les Saoudiens à faire cette initiative sur l'État de Palestine avec lui, on aurait aimé voir eh bien, des gouvernements reprocher à ces monarchies, à ces États-là, de ne pas eh bien, se porter au secours de la population palestinienne. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Mémodio, une mémoire sonore.